Bonsoir.
Bonsoir Pauline.
Bonsoir. Carl de Miranda, penseur, conférencier, spécialiste, on va dire spécialiste de l'écologie humaine et de la nature naturelle, on va dire ça.
Oui, ok.
Ça vous va comme présentation ou vous préférez peut-être ajouter bien. Quelque chose?
Ça me va.
Non, allez, dites-nous, parce que c'est vrai que vous avez une carte de visite impressionnante.
Oui, alors disons que je suis auteur et conférencier dans le domaine de l'épanouissement personnel, de la recherche du bonheur, et puis j'ai une double casquette dans le sens où j'ai aussi exercé en tant que consultant et dirigeant d'entreprise dans le domaine de l'environnement. Mmh. Donc, je suis un peu à la croisée de ces expériences-là, mais ces dernières années, je me consacre principalement à partager sur ces thématiques de recherche du bonheur que l'on trouve en soi, en relation avec les autres et avec l'environnement. Donc, ces trois grandes composantes qui me semblent essentielles.
D'ailleurs, vous parliez de croiser des chemins et en fait, parfois, ces deux chemins se confondent entre la recherche de l'équilibre personnel et en même temps l'équilibre dans sa relation avec la nature. Et on en parle énormément, notamment à propos du confinement, à propos de cette période de crise sanitaire, où tout à coup, il a été évident pour beaucoup de gens qu'il fallait retrouver un équilibre, qu'il fallait retrouver une relation également avec ce qui nous entoure, avec la nature. Ça paraît évident, on a l'impression qu'on dit des banalités, et pourtant, ça a été un thème, une vraie thématique pour les gens durant cette période. Ça vous a surpris ?
Disons que, effectivement, je l'ai constaté, je dirais qu'il y a eu une triple reconnexion pendant cette période-là. D'une part, on s'est tous reconnectés avec nous-mêmes, puisque ce qui se passait à l'extérieur, disons dans tout le superficiel de nos vies quotidiennes, a été mis à l'arrêt, on a été contraint de se reconnecter avec ce qui se passe en nous-mêmes. Donc ça a été une première reconnexion. Puis on s'est retrouvé aussi reconnecté avec nos proches qui étaient confinés autour de nous, puis nos proches qui étaient confinés tout comme nous et que finalement on n'avait plus souvent au téléphone ou par WhatsApp, et puis cette reconnexion avec notre environnement proche, puisqu'on était constamment baigné dans ce même environnement, tout d'un coup, on a pu reconstater l'importance qu'il y avait à vivre dans un environnement harmonieux. Et pour certains, ça a été aussi le constat d'à quel point, en fait, ils vivaient dans un environnement qui n'était pas tout à fait en harmonie avec eux et qu'ils l'ont subi de ce fait. On a aussi redécouvert, bien évidemment, l'importance de ce cadre naturel qui nous est essentiel. Alors, certains témoignaient du fait qu'ils entendaient à nouveau les oiseaux, l'air était plus pur et une énergie beaucoup plus calme, puisqu'il y avait tout ce stress ambiant qui avait été mis à l'arrêt. On pouvait ressentir cette présence naturelle autour de nous, en tout cas pour ceux qui avaient la chance de pouvoir vivre dans un environnement où la nature était encore plus ou moins présente. Mmh.
Carl de Miranda, vous avez été interrogé, enfin on vous a demandé en tout cas d'apporter une réflexion sur ce que nous venons de traverser dans le journal Féminin Bio, qui pour le numéro de juillet-août donc de cette année. Et j'ai lu cet article et puis je trouvais intéressant parce que vous suggérez même que peut-être que la nature, à travers l'épreuve qu'on vient de traverser, se défend elle-même, si j'ai bien compris.
Oui, alors disons que factuellement déjà, un certain nombre de scientifiques ont émis l'hypothèse que le virus était passé à l'homme depuis une chauve-souris, ensuite via éventuellement un hôte intermédiaire, comme on dit, mais qu'à la base, c'est une chauve-souris qui était porteuse du virus. Parce que son environnement est dégradé, elles se mettent à excréter d'autant plus les virus parce qu'elles sont stressées, elles se retrouvent sur un marché aux animaux où elles sont à nouveau stressées. Et donc, tout cet ensemble de cofacteurs fait qu'on crée les conditions pour que la chauve-souris se mette à excréter un virus et le passe à l'homme. Donc ça, c'est une première chose. Puis ensuite, il y a toute cette accélération de notre vie moderne qui fait que la propagation a été particulièrement intensive. Ce qu'on voit aussi, c'est que les effets de ce coronavirus ont eu pour effet de calmer toute une suractivité qui était nuisible à la nature, surconsommation, surpollution, Et du coup, ça a été mis à l'arrêt. Donc effectivement, on voit qu'il y a factuellement un lien en termes de causalité dans l'origine de cet épisode. Et on voit aussi que, par effet de conséquence, eh bien, il y a un certain nombre de déviances qui, en quelque sorte, ont été mises à l'arrêt. Par ailleurs, il y a eu tout un effet sur les consciences. C'est-à-dire que, étant mise à l'arrêt, on a pris un temps de recul pour mieux contempler ce qui se passait dans nos vies. Qu'est-ce qui était essentiel? Qu'est-ce qui était superflu? Un peu comme si on s'était tous mis à jeûner, une sorte de diète par rapport à cette suractivité qui nous masquait au fond l'essentiel de nos vies. Donc oui, il est possible que la nature utilise parfois des remèdes douloureux, il faut le dire, puisque beaucoup d'entre nous ont quand même subi de lourdes difficultés, certains ont perdu la vie, et ça, on ne peut nier que la pilule est amère. Mais on peut peut-être y voir un sens. En tout cas, c'est porteur d'enseignement et on a tout intérêt à en tirer des leçons pour l'avenir.
On lit aussi, puisque vous parlez de diète, on lit aussi dans ce que vous avez écrit pour ce journal Féminin Bio que l'homme, avec un grand H, serait une sorte de boulimique, un peu boulimique de la pensée aussi. Et ça m'a étonnée, puisque j'ai le sentiment que si on se penche sur les dernières années, nos dernières années, on a l'impression que les gens pensent moins, sont moins dans une tradition de réflexion, de dissertation sur les choses philosophiques, et qu'on est peut-être plus, amené un petit peu à être submergé par les informations et de réussir un petit peu moins facilement à les trier et à les ordonner dans nos cerveaux. Et vous avez plutôt le sentiment, au contraire, qu'on a de plus en plus de gens qui pensent.
Alors, c'est tout à fait intéressant ce que vous dites parce que, en fait, les deux aspects se rejoignent. À savoir que on est effectivement en train de penser beaucoup trop, c'est-à-dire qu'on a un flux permanent de pensées qui défile dans nos têtes, mais avec une grande mécanicité, une grande compulsion. C'est-à-dire qu'en fait, ces pensées sont alimentées par toutes sortes de désirs qui sont en nous et finalement, notre attention est comme capturée par ses pensées, au détriment de tout ce qu'il peut y avoir de plus profond en nous, au détriment de ce qu'il peut y avoir chez les autres autour de nous et dans l'environnement. Donc en fait, ce qui pose problème aujourd'hui, ce n'est pas la pensée en soi, mais ce mode de fonctionnement compulsif et permanent de la pensée. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une pensée compulsive ne reflète pas objectivement le monde. Et nous avons besoin de penseurs de philosophie, certes, mais qui sont capables d'avoir une pensée, un minimum objectif, qui va poser un regard sur le monde, non pas un regard compulsif, qui serait le fruit de toute cette agitation qui mijote en nous, mais un véritable regard doté d'objectivité. Donc, les deux se rejoignent, c'est-à-dire que l'excès de pensée compulsive, tel qu'on le vit aujourd'hui, nuit à la pensée objective.
On se retrouve un peu dans cette situation-là d'avoir toutes ces réflexions sur Covid-19. On ne sait pas exactement d'où ça vient. On a plein d'hypothèses comme ça qui débarquent de tous nos cerveaux, de toute notre personnalité, des médias aussi, différentes informations. Ça vient de tous les pays. Puis du coup, on est dans cette espèce de flux d'informations parfois contradictoires qui génère en tout cas sentiment comme ça un peu anxieux, on l'a beaucoup ressenti dans le cadre de la ligne de cœur ces derniers mois.
Oui, c'est-à-dire que on s'est beaucoup habitué à s'abreuver de pensées, d'informations. On n'a qu'à voir, il y a toutes sortes de chaînes de télévision qui diffusent en permanence et en se faisant concurrence les unes les autres des informations toute la journée. Donc on s'est habitué à un flux de pensées. Sauf que quand on est face à la nouveauté, eh bien, on essaye de plaquer ce phénomène, de penser, d'anticiper, de trouver des solutions, mais du coup, on va trop vite, on se met à parler vite, on n'a pas forcément les éléments pour juger, on va fonctionner aussi avec des émotions, parce qu'il y a la peur qui est là, par exemple, et la peur, elle est mauvaise conseillère de la pensée, c'est-à-dire que si on se met à penser uniquement avec la peur, nos pensées vont être orientées dans une certaine direction, évidemment, on va manquer d'objectivité. Donc, les ingrédients étaient réunis pour que cette surabondance de pensées, eh bien, voile l'objectivité de la situation. Et cela rend l'action et les réactions d'autant plus difficiles. Alors effectivement, voilà, face à la nouveauté, notre mode de fonctionnement centré sur la pensée permanente et compulsive, eh bien, était tout à fait pris au dépourvu, je dirais.
Bon, Carl de Miranda, vous avez publié un livre dernièrement intitulé « Un monde heureux est, en parenthèse, encore possible ». Et c'est paru aux éditions Jouvence. Donc, un monde encore heureux, un monde heureux encore possible. Après ces mois, enfin parce que ce livre est sorti pile au milieu, hein, pile en pleine crise. Qu'est-ce que vous auriez changé peut-être dans ce livre, ou qu'est-ce que ce nouveau chapitre de l'humanité aurait apporté comme réflexion?
Écoutez, c'est vrai que quand j'ai écrit ce livre, évidemment, cet épisode n'était pas encore là, mais il y avait déjà en germe un certain nombre d'ingrédients qui se sont révélés de façon criante également lors de cet épisode. Donc, en réalité, il y a beaucoup d'éléments dans cet ouvrage qui sont véritablement d'actualité. Un des messages que je porte dans cet ouvrage et dont on vient de parler aussi en quelque sorte, c'est cette nécessité de revenir vers plus de conscience, vers davantage de conscience, de sensibilité. On en parlait à l'instant, cette surabondance de la pensée, elle se fait en parallèle d'une perte de sensibilité par rapport à notre profondeur. Lorsqu'on se déconnecte de la vie en nous, on se déconnecte en réalité de la vie tout court, cette vie que l'on retrouve chez les autres, mais aussi dans la nature. L'homme occidental s'est beaucoup pensé comme maître et possesseur de la nature, et c'est pensé finalement comme un visiteur qui serait là pour exploiter le monde. Et on a perdu nos racines communes avec l'ensemble du vivant, avec la nature. Dans cet épisode aujourd'hui, on voit qu'on a une opportunité de comprendre que nous vivons au sein d'un ensemble, d'un écosystème. La façon dont s'est propagé ce virus, ça nous le rappelle clairement, c'est un ensemble vivant. Donc, se reconnecter à la profondeur par la sensibilité, redécouvrir le vivant en nous, autour de nous, voilà qui me semble essentiel. Alors c'est vrai que dans cet ouvrage, je donne un certain nombre de pistes parce que une telle vision, disons, doit se décliner et s'ancrer très pratiquement dans tout un ensemble de domaines, c'est-à-dire que ce soit l'éducation, l'information, la publicité, la politique, tous ces domaines-là, on a vraiment besoin de les éclairer à nouveau de conscience, parce qu'on s'est beaucoup éloigné de ça. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui nous attendent, on a beaucoup de pain sur la planche. J'espère que petit à petit, on infléchira les choses dans la bonne direction.
Carl de Miranda, moi je vous écouterai toute la soirée, vous parlez de manière limpide, on a envie de suivre vos méthodes. Mais si je vous demandais maintenant un exercice pratique pour terminer cette discussion, pour toutes les personnes qui ont envie aussi d'être plus conscientes, d'avoir une plus grande sensibilité, de mettre un mur face à la peur aussi, hein, de se prémunir de l'angoisse, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut s'y prendre de manière pratique?
Écoutez, la première chose qui me vient à l'esprit spontanément quand j'entends votre question, c'est de me dire que si chacun pouvait prendre conscience de l'importance qu'il y a à essayer de découvrir la méditation. La méditation, c'est une pratique laïque, générale. On peut adapter dans toutes les voies d'épanouissement personnel. Mais la méditation, c'est une voie royale pour arriver à prendre du recul par rapport à la mécanicité compulsive qu'il y a dans nos pensées, dans notre fonctionnement personnel, dans notre fonctionnement émotionnel, puisque vous parlez de la peur. La méditation, c'est simplement la première étape de la méditation, c'est d'arriver à se poser, à prendre du recul et à être capable de poser son attention sur autre chose que le défilement permanent des pensées en nous. Au début, par exemple, en prenant appui sur sa respiration, ça peut être un moment au calme chez soi, quelques minutes par jour au début, ou quand on est dans sa voiture, mais essayez de sentir le contact avec le va-et-vient de sa respiration. Et à chaque fois qu'on repart dans ses pensées, on revient sur la respiration. cette gymnastique de l'attention qui vise à reposer l'attention sur autre chose que la pensée, en ayant un support sensible, c'est un point d'entrée vers une nouvelle vie, vers un nouveau mode de fonctionnement. Parce que si on est capable de regagner la maîtrise de notre attention, en la désolidarisant de cette hypnose des pensées à laquelle nous sommes tous collectivement soumis, eh bien nous allons gagner une liberté immense. Le jour où on est capable de reposer notre attention, non pas seulement sur nos pensées, mais sur ce qui se passe en nous, sur nos émotions, eh bien, toute une nouvelle approche de la vie va s'installer. On va pouvoir accueillir nos émotions. Au lieu, par exemple, quand on a peur, on a tendance à être propulsé dans nos pensées, à essayer de résoudre un scénario de peur. Et tout un chacun pourra faire cette expérience. On a un scénario de peur dans notre tête, on essaye de le résoudre, puis on a l'impression de l'avoir résolu. Deux minutes après, un autre scénario de peur qui n'a en commun en réalité que cette même émotion de peur va apparaître dans notre cerveau. La réalité, c'est qu'il nous faut absolument trouver le moyen de reprendre contact avec notre profondeur et avec la sensibilité profonde qu'il y a en nous. Et voilà, c'est pour ça que ce premier mot qui me vient à l'esprit, qui est vraiment un remède à beaucoup de nos maux qu'on méditation. A en Occident, c'est la méditation. Et la méditation, ça n'a rien de sorcier, d'ésotérique, c'est vraiment quelque chose de tout à fait laïque, qui est compatible même avec des voies religieuses traditionnelles. Décrocher de la pensée en prenant un support intérieur, puis ensuite, une fois qu'on a la maîtrise de notre attention, on peut à nouveau être au contact de ce qui se passe en nous.
Vivre ce moment présent sans anticiper justement les peurs à venir. Je crois que on passe beaucoup de temps à anticiper des drames qui finalement ne surviennent jamais. Et c'est vrai qu'on gagnerait peut-être effectivement à vivre ce qu'on est en train de vivre, de percevoir les choses que l'on vit plutôt que d'anticiper
absolument.
Le pire. Bah merci beaucoup pour ce partage donc à travers donc cet article hein, qu'on peut lire en entier sur Féminin Bio, c'était donc un magazine, c'est paru ce mois-ci. Puis on rappelle que voilà, il y a un livre qui est sorti au mois de mars, si je ne m'abuse, Un monde heureux est encore possible aux éditions Jouvence. Merci beaucoup Carl de Miranda d'avoir été avec nous.
Merci Pauline.
Merci, à tout bientôt. On vous souhaite
un très bon
week-end. Enfin, très bon week-end. Très bonne semaine.
Ouais. Bonne semaine, oui.
Merci. Au revoir.
Au revoir.